Il est 19h10 à Paris. Tout de suite, vous retrouvez Daniel Desescales, édition spéciale Carrefour de l'Europe. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Jeanne.
Spotkania europejskie.
Kuzymion tu d'Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desescales.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, pour une émission évidemment exceptionnelle, puisque depuis jeudi, 427 millions d'Européens votent pour élire leurs 751 députés qui siégeront au Parlement européen. Ce sont les Néerlandais et les Britanniques qui ont ouvert ce grand bal électoral il y a 4 jours, et ce sont les Italiens qui vont le clore du côté de Rome. Les derniers bureaux de vote fermeront en effet à 23h. En France, si vous n'avez pas encore accompli votre devoir électoral et si vous habitez une grande ville, vous avez un peu moins d'une heure pour vous rendre dans un bureau de vote. Jamais, peut-être depuis 1979 et la première élection au suffrage universel du Parlement européen, les enjeux de ce scrutin n'ont paru aussi importants. Ils sont au moins au nombre de 3, ils sont plus nombreux, mais on va en retenir 3. L'érosion des principaux partis conservateurs et sociaux-démocrates qui, jusqu'alors, avaient à eux deux la majorité au Parlement de Strasbourg, mais rien ne dit qu'ils la conserveront. La montée de l'extrême droite qui est présente presque partout en Europe et corollaire leur capacité à former ou non une alliance nationalo-souverainiste à la droite de la droite, et puis aussi le double pari d'Emmanuel Macron en France, celui d'arriver devant le Rassemblement National de Marine Le Pen, et au niveau européen être suffisamment puissant pour peser dans le futur groupe libéral, démocratique et réformateur qui va être central au sein de ce nouveau Parlement européen. Je vous présente les invités avec lesquels nous allons passer cette première heure à décrypter justement les premiers résultats. Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour et même bonsoir.
Vous êtes consultant européen et président du mouvement européen France. Jens Althoff, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du bureau de Paris de la fondation Heinrich Böll, qui est une fondation politique très proche des Verts allemands, on peut dire ça ?
Oui, absolument.
Évidemment, on va revenir sur les Verts allemands. Eddy Vautrin-Dumais, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'Institut Kantar. Alors justement, Eddy Vautrin-Dumais, généralement les élections présidentielles génèrent peu de surprises. J'ai l'impression que ça ne va pas être le cas cette année. C'est par exemple le cas en France au niveau de la participation. À 17h déjà, plus de 43% de votants. C'est supérieur à ce qui s'est passé en 2014 où à la fin la clôture des bureaux, seulement 42% des Français s'étaient rendus dans un bureau de vote.
Effectivement, et c'est la première surprise, c'était la première interrogation concernant ce scrutin, et puis c'est la première surprise. Aujourd'hui, on assiste à une augmentation de la participation et on table avec une participation autour de 50-52% selon les instituts, donc c'est mieux. C'est mieux que prévu, et c'est aussi un score qui est nettement au-dessus de ce qu'on avait observé depuis les dernières élections, soit depuis 1994. Et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on aura plus de gens qui auront voté pour le scrutin européen que ce que cela aura été pour le premier tour des départementales, des régionales, mais aussi le premier tour des législatives.
Alors peut-on extrapoler cette participation en France au niveau européen ?
Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'augmentation de la participation qu'on observe en France, on l'observe aussi dans d'autres pays. On l'a notamment observé en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Hongrie et aux Pays-Bas, même si en Espagne, le scrutin européen était couplé avec d'autres élections locales à fort enjeu.
Donc, une tendance forte et générale, partout en Europe, ou presque partout en Europe. Et évidemment, au fur et à mesure que les minutes vont s'écouler, on pourra affiner ces chiffres et ces tendances. Yves Bertoncini, je m'adresse au président du mouvement européen, finalement, ça intéresse l'Europe, les Européens, il semblerait en tout cas. Et Dumais nous disait que même cette élection a dépassé plus de monde que les dernières législatives. On s'intéresserait presque plus à l'Europe qu'à la France, c'est incroyable.
Absolument, et c'est tant mieux. C'est vrai que se dessine une tendance générale en Europe, même s'il y a quelques pays où la participation régresse de quelques points, je crois, il faut aussi le dire, mais globalement une tendance générale, c'est spectaculaire en Allemagne, sans doute aussi plus 10 points. Alors évidemment, quand il y a des élections locales ou régionales le même jour, comme en Espagne, ça s'explique, mais quand il n'y en a pas, ça témoigne peut-être d'une prise de conscience plus large qui peut être liée au contexte géopolitique, aux défis internationaux que les Européens doivent relever. C'est vrai en matière environnementale et climatique, c'est vrai en matière migratoire, je crois qu'il y a aussi une anxiété en matière de sécurité collective avec Trump, Poutine, les Chinois, le terrorisme islamiste sur un autre registre, donc peut-être les Européens se saisissent-ils davantage de leur de cette occasion qui leur est donnée de peser sur les rapports de force au niveau européen, évidemment en fonction de leurs préférences partisanes, mais en tout cas le fait de voter peut s'expliquer comme cela. Alors simplement, une fois qu'on a dit ça, il faudra regarder les enquêtes d'après vote. Je sais que Kantar en fera, d'autres aussi, pour mesurer quelle était la motivation des électeurs. Elle est souvent mixte. Elle est souvent mixte. On verra notamment en particulier, mixte, ça veut dire à la fois européenne et nationale. On verra en particulier en France, en fonction des résultats, si le contexte domestique complexe et protestataire même ne va pas avoir aussi déterminé nombre d'électeurs pour, j'allais dire, générer ce surcroît de participation spectaculaire. Je dirais simplement pour terminer qu'on revient donc à un score qui était celui de 94 à peu près. Il y a déjà eu en 94 plus de la moitié des électeurs qui se déplacent en France pour les européennes, et que ça, je dirais, c'est à peu près le bon étiage s'agissant d'une élection fédérale. Et donc c'est les étiages qu'on retrouve aux États-Unis, en Suisse pour les élections fédérales. L'Europe ne décide pas de tout, donc il y a un déficit de participation, mais il serait effectivement plus logique qu'au moins un Français sur deux se déplace lors de ces élections, comme ça va sans doute être le cas.
Eddy Vautrin, du même de l'Institut Kantar, je me retourne vers vous. Est-ce que cette participation beaucoup plus grande en France comme en Europe, est-ce qu'elle est en faveur des partis pro-européens ou des partis souverainistes qui peu ou prou prônent la sortie de l'Union européenne, ou est-ce qu'il est vraiment trop tôt pour le dire ?
C'est encore tôt pour le dire, et en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il y a des surprises, et c'est justement, ça sera l'objet des prochaines enquêtes post-électorales, de voir justement qu'est-ce qui a poussé ces électeurs ou ces nouveaux électeurs à voter, et notamment pour le scrutin français. Il faudra voir qui est-ce que La République En Marche ou que le Rassemblement National aura réussi à mobiliser. Donc pour l'instant on ne le sait pas. Ce qui est certain, c'est que ce soit aux Pays-Bas, notamment aux Pays-Bas, ce qu'on observe, c'est que la percée des partis eurosceptiques, on ne l'aura pas encore observé. En tout cas, il reste un niveau élevé, et il faudra voir si ça se confirme ou pas dans les autres pays. Néanmoins, cette percée dont tout le monde parlait, pour l'instant, personne ne l'a encore vue. En tout cas, elle ne semble pas être spectaculaire à date, mais ça peut bien entendu changer.
Alors, participation très forte, on l'a vu. Traditionnellement, on vote davantage à l'ouest de l'Europe qu'à l'est de l'Europe. Est-ce qu'il y a aussi un petit changement dans les pays de l'Europe centrale et orientale? Est-ce qu'on a voté un peu plus en Europe de l'Est, où les scores sont absolument dérisoires? En 2014, seuls par exemple 13% des Slovaques s'étaient déplacés et 23% des Polonais, pour ne prendre un seul exemple.
Alors pour l'instant, on n'a pas encore l'ensemble des chiffres pour l'Europe de l'Est. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en Hongrie, il y a une forte mobilisation avec une augmentation de la participation, et que en France, mais aussi en Allemagne, on a vu les consulats, même si c'est absolument pas représentatif de ce qui se passe dans les pays, les consulats roumains notamment, avec une très très forte affluence. Donc on peut aussi considérer
qu'il y a un frémissement, qu'il est en train de se passer quelque chose.
Effectivement, et notamment, je pense que ce que vous venez de dire est absolument capital, c'est qu'il y aura aussi, sans doute, dans les motivations du vote, la volonté de vouloir marquer quelle est la position de l'Europe face à ses voisins. Et pour les pays de l'Est, le voisin dont il peut être question, c'est la Russie. Donc évidemment, ça pourrait aussi, bien entendu, se traduire par une augmentation de la participation.
Yves Bertrand, un petit mot sur ces élections à laquelle 87 millions d'Européens sont appelés à participer dans 28 pays. Elle est unique au monde. Seuls les Chinois et les Indiens organisent des scrutins aussi importants. Alors, les Chinois, ils n'ont pas l'embarras du choix. Les Indiens, évidemment, c'est un petit peu différent puisque c'est la plus grande démocratie du monde. C'est assez incroyable. C'est un scrutin tout à fait unique au monde.
Absolument. Et donc, on va dire qu'on est la deuxième plus grande démocratie du monde. Ce sont quand même 28 démocraties nationales dans un cadre commun, qui s'expriment avec chacun d'ailleurs leur tradition. On n'a pas tous voté le même jour en Europe. Il n'y a pas non plus la parité homme-femme comme en France dans tous les pays. On n'a pas le même degré de pourcentage, seuil minimal pour avoir des élus. Donc il y a des diversités, mais quand même, à la fin, c'est 28 urnes dans 28 pays qui sont décortiquées, qui vont l'être ce soir au Parlement européen à Bruxelles. Et puis, on va effectivement avoir une photo à l'instant T des préférences partisanes exprimées à chaque fois sur des logiques qui restent en partie nationales, mais qui, je crois, enfin je l'espère, deviennent de plus en plus européennes, avec la formation d'un espace public commun, compte tenu des conflits et des défis extérieurs et internationaux que nous devons relever en tant qu'Européens.
Alors, les tout premiers résultats sont tombés en Allemagne, où nous rejoignons à Berlin notre correspondant Pascal Thibault. Bonjour Pascal.
Bonsoir Daniel.
Bonsoir Pascal, c'est vrai, j'ai tendance à dire bonjour, je suis, faut dire, complètement réveillé. Alors, l'Allemagne envoie 96 sièges à Strasbourg et à Bruxelles, les deux lieux où le Parlement européen travaille. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà un effritement d'Angela Merkel, de la CDU, mais surtout, un incroyable succès des Verts.
Oui, tout à fait. Cette élection pourrait sans doute la qualifier d'historique. Historique par la défaite sensible des deux grands partis traditionnels qui gouvernent actuellement l'Allemagne au sein d'une grande coalition, puisque par rapport à l'élection de 2014, eh bien la CDU, CSU pour la droite et le SPD pour les sociaux-démocrates perdent 19%. C'est donc énorme. Effectivement, le SPD se retrouve à 15 et quelques pourcents de jamais vu depuis la guerre, et le score de la CDU, CSU, même si le parti arrive en tête, est le plus mauvais depuis également le deuxième conflit mondial. Les grands gagnants, vous le disiez, ce sont les Verts qui gagnent plus de 10 points par rapport à 2014, qui auront autant de sièges dans le nouveau Parlement que la CDU mis à part les 7 sièges qu'aura la CSU bavaroise. À noter aussi, puisqu'on parle beaucoup des succès des populistes de droite en Europe, que l'AFD recule par rapport à son score des élections générales de septembre 2017. Elle améliore son score par rapport à 2014, mais c'était à une époque où le parti venait pratiquement d'être né. Et puis vous en parliez à l'instant également, autre élément à souligner, la forte participation qui augmente de 11 points en Allemagne pour atteindre près de 60% aujourd'hui.
Pascal, vous restez avec nous bien sûr, mais j'aimerais avoir le commentaire de Jens Alsov, donc le directeur de la fondation Heinrich Böll à Paris, la fondation des Verts. Succès incroyable, historique, auquel vous-même vous ne croyez pas, Jens Alsov.
Oui, c'est vraiment un résultat historique et je dois dire, c'est vraiment une surprise d'une certaine façon, parce que c'est vrai, les Verts étaient très bien dans le sondage, mais dans toutes les dernières élections, normalement, les Verts sont toujours un peu mieux dans le sondage que dans les résultats. Et là, les derniers sondages, c'était autour de 17%. Donc là, on est autour maintenant du 21-22% vraiment dans le résultat, ce qui serait historiquement le meilleur résultat des Verts au niveau fédéral. Il y a une seule élection, c'était dans la région de Baden-Württemberg, où les Verts dirigent le gouvernement avec le ministre-président Winfried Kretschmann, qui est très populaire comme personnage dans cette région. Donc là, ils ont eu 2016 30%. Mais jamais au niveau fédéral, il y avait vraiment un résultat comme ça. Et quand même, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit maintenant après les élections en Bavière et dans la région de Hessen, où aussi les Verts étaient la deuxième force. Donc là aussi, on va maintenant, il semble que vraiment, là, il y a quand même un changement en Allemagne, que les Verts sont en train de devenir la deuxième force en Allemagne. Ce qui est aussi quand même très bonne nouvelle, on doit dire, c'est que ce montée de l'extrême droite les dernières années en Allemagne, et qui sont quand même en ce moment la troisième force au Parlement fédéral en Allemagne, ça, il semble, c'est fini. Déjà, bon, ils sont quand même autour de 10%, mais c'est plus faible que les dernières élections fédérales. Et il y a aussi aujourd'hui quelque chose qui est très important en Allemagne, et beaucoup y regardent, c'est la région de Bremen, où aussi il y avait les élections. Et là, il semble que l'extrême droite, peut-être, pourra même pas avoir le seuil de 5%.
Pour être vraiment local.
Au Parlement, ce qui est aussi vraiment fort.
Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, ce succès inespéré, inattendu et historique des Verts allemands, Jens Althoff?
Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Un facteur aussi, on doit dire que la question climat est une très grande priorité pour ces élections. La première priorité, si on peut voir les sondages avant, on va voir là les sondages bien sûr après les élections, un peu les recherches là-dessus. Aussi, on doit dire que le mouvement des jeunes Fridays for Future était très important, beaucoup plus important en Allemagne qu'en France. Seulement le vendredi dernier, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes sur les rues en Allemagne et dans plusieurs villes. Ça, c'est une chose, mais il y a quand même aussi d'autres facteurs. Un facteur, c'est que les sociaux-démocrates sont très faibles, que là, il y a un manque de stratégie, un manque vraiment d'une position claire. Et il y a aussi le montée quand même de l'extrême droite, où les Verts sont eux qui sont très clairement pro-européens et qui veulent faire barrage, c'est important. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même deux nouveaux présidents du parti, deux nouveaux leaders qui sont aussi très présents et qui ont beaucoup de succès, c'est Robert Habeck et Annalena Baerbock, qui sont deux nouveaux, deux jeunes. Donc il y avait aussi un renouvellement du parti, et ce qui joue aussi. Donc il y a quand même plusieurs facteurs. Mais ce qui est quand même, je veux dire, vu par la France, extraordinaire, c'est que les Verts, ils gouvernent dans beaucoup de régions. Donc c'est pas une partie qui ne gouverne pas, qui aurait pas de responsabilité, que l'opposition. C'est aussi une partie qui a la responsabilité et qui gagne quand même aussi dans les régions où ils sont en responsabilité.
Pascal Thibault, pour Angela Merkel, c'était un peu sa dernière campagne. Elle a d'ailleurs très très peu participé. Je crois qu'elle a participé à un seul meeting à Munich. Par contre, pour sa successeur, Annegret Kramp-Karrenbauer, c'était le baptême du feu. C'est pas vraiment une réussite, ce baptême du feu, pour la CDU-CSU.
T'adresses à moi, Daniel ?
Oui, Pascal.
Ah, pardon, je n'avais pas compris. Oui, effectivement, il y a Annegret Kramp-Karrenbauer qui a pris la parole il y a une petite heure. Elle a reconnu que le score était médiocre et n'était pas évidemment satisfaisant pour son parti. C'est vrai que l'espoir qu'on avait pu avoir au sein de la CDU, que le passage de relais d'Angela Merkel à AKK, comme on l'appelle ici, aurait pu profiter au parti, lui redonner des couleurs dans les sondages, eh bien, ce n'a pas été le cas, qu'il s'agisse du parti comme de la popularité de sa présidente. Ceci dit, elle a malgré tout souligné, Annegret Kramp-Karrenbauer, que puisque son parti arrivait en tête en Allemagne, eh bien, et que le PPE, sans doute, le Parti Populaire Européen, arriverait en tête, serait le plus grand groupe parlementaire au sein du Parlement Européen, eh bien, elle a, aux côtés de Manfred Weber, lors d'une conférence de presse, souligné son soutien aux Bavarois comme future présidente de la Commission européenne.
Alors on vient évidemment sur le sol de Manfred Weber, le Spitzenkandidat du PPE, le Parti conservateur européen, et on peut noter que Manfred Weber était un Bavarois. Catastrophe pour le SPD, 15%, c'est je crois le score le plus bas que les sociodémocrates en Allemagne ont atteint. Est-ce qu'à votre avis, ça peut remettre à terme en cause cette grande coalition qui gouverne l'Allemagne déjà depuis 2 ans?
Ce qui est évident, c'est qu'avec un score aussi mauvais, les opposants au sein du parti, et ils sont nombreux, qui estiment que la grande coalition signifie, pour faire simple, la perte du parti, puisque le parti enregistre un recul de 5 points par rapport aux législatives de septembre 2017, eh bien ces opposants vont sans doute, dans les heures qui viennent, se manifester pour dire tous les mal qu'ils pensent de cette grande coalition. Ceci dit, la situation pour le SPD ressemble à la quadrature du cercle, parce que, bien sûr, de nouvelles élections, si elles devaient avoir lieu, serait encore plus catastrophique que, en termes de résultats, que celle de septembre 2017. Donc on voit mal comment le SPD peut sortir de cette impasse et de cette spirale qui l'enfonce toujours plus dans les sondages.
Merci Pascal. Yann Saltov, vous vouliez rajouter un petit mot sur cette victoire historique.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment difficile pour le SPD, pour le social-démocrate, ça c'est sûr, c'est une situation difficile. Il faut quand même voir qu'il y avait un point qui était très important, c'est justement les élections dans la région de Bremen. Mais là, il semble même que là, les conservateurs, pour la première fois depuis l'après-guerre, sont en tête. Il semble quand même que le SPD va pouvoir garder le pouvoir dans cette région avec une coalition des Verts et de la gauche, des Linke. Donc, ils peuvent quand même garder. Ils doivent encore faire, bien sûr, des négociations, tout ça, mais ils ont une chance de garder. Et les conservateurs, ils sont pas une majorité avec les libéraux ou quelque chose comme ça. Ça aurait été vraiment, ça c'est clair, là, ça aurait été le moment décisif où il y aurait beaucoup de changements au sein du SPD, mais car ils peuvent encore garder le pouvoir, je crois que ça pourrait même quand même continuer, on va voir.
Alors il faut évidemment attendre un petit peu le résultat des Verts dans les autres pays européens. Ce que l'on sait, c'est que par exemple en Irlande, à Dublin, Dublin n'est pas toute l'Irlande, mais ils ont fait un très bon score. Il y aura probablement des députés verts irlandais, ce qui est du jamais vu. Incontestablement, les Verts ont le vent en poupe en cette élection européenne 2019. Carrefour de l'Europe, soirée électorale. Nous sommes avec Yves Bertoncini, président du Mouvement Européen France, avec Yann Saltov, directeur du bureau de Paris de la Fondation Nerisbold, avec Eddy Vautrin-Dumaine, directeur de l'Institut Kantar à Paris, et bien évidemment tous les correspondants de RFI en Europe. À tout de suite.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles. 19h30 sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Si vous nous rejoignez, voilà ce qu'il faut retenir. Et je m'adresse à Eddy, votre indumène. D'abord, une participation inattendu en France et dans le reste de l'Europe.
Effectivement, et c'est sans doute le premier enseignement majeur de cette soirée électorale, c'est-à-dire que la participation, elle a augmenté en France, bien entendu, avec plus d'un électeur sur deux qui, a priori, devrait se rendre aux urnes. Mais la France ne fait pas exception, puisqu'elle a fortement augmenté en Allemagne, plus 10 points, mais aussi en Pologne, où on a quasiment doublé le nombre d'électeurs, avec un taux de participation autour de 32%, mais aussi en Espagne, en Hongrie et aux Pays-Bas. Donc on le voit, aujourd'hui, on a une participation qui augmente de partout, en tout cas dans un certain nombre de pays européens, alors qu'elle reste stable pour le moment en Italie et au Portugal.
Alors, vous avez évoqué les Pays-Bas, Eddy Vautrin-Dumène. Là aussi, petite surprise au niveau des résultats. De l'extrême droite n'a pas fait un score considérable aux Pays-Bas, vous confirmez?
Effectivement, et c'était l'un des pays qui était souvent cité comme pouvant être celui où l'extrême droite pourrait faire une percée. Force est de constater que c'est pas le cas. Et il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées et qui sont sans doute justes. Et d'abord, la tête de liste, M. Timmermans, qui a été évoqué, qui a fait
Franz Timmermans, le social-démocrate, qui a fait un très très bon score et qui évidemment en totale opposition avec l'effondrement des social-démocrates en Allemagne juste à côté.
Effectivement, et il faut pas oublier, c'est déjà lui, enfin sa personne est une personnalité majeure du paysage politique aux Pays-Bas. Et puis il faut pas oublier aussi que il a une légitimité européenne avec sa position de Spitzenkandidat. Et on peut bien entendu considérer que c'est l'un des éléments. Pas le seul, parce qu'il a aussi fait une campagne qui a été jugée de manière positive et surtout qui a été jugée en phase avec les préoccupations des Néerlandais. Néanmoins, effectivement, il a limité la casse, il s'en est même plutôt bien sorti.
Yves Antoncini, alors, évidemment, les premiers résultats tombent petit à petit, mais est-ce qu'on peut déjà avoir une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler ce nouveau Parlement européen? Traditionnellement, le Parlement européen, la majorité, c'était un assemblage entre les conservateurs et les sociaux-démocrates. Il semble, avec le succès des Verts en Allemagne, l'Allemagne, c'est 96 eurodéputés, c'est le contingent le plus important, que cette configuration majorité avec les conservateurs et les sociaux-démocrates soit remis en cause dès maintenant.
Oui, c'est ce que disaient les enquêtes d'opinion et que confirment en effet les premiers résultats, ou en tout cas résultats provisoires, c'est que c'est la fin de la domination historique de ce condominium duopole PPE sociaux-démocrates, la grande coalition. Ils n'auront plus suffisamment de voix pour avoir la majorité à eux deux, notamment parce que le PPE, les conservateurs, sont grignotés vers leur droite par l'extrême droite, la droite extrême, et puis de l'autre côté, les sociaux-démocrates sont un peu en perte de vitesse, globalement, pas dans tous les pays. Regardez l'Espagne, on vient de rappeler le bon score aux Pays-Bas, mais enfin, un peu en perte de vitesse, parce qu'ils sont grignotés par les Verts, le cas allemand le montre, et puis par une gauche plus radicale. Donc, ce que ça voudra dire, c'est qu'il va falloir mettre en place une encore plus grande coalition, ouverte à au moins un troisième groupe, qui pourrait être le groupe centriste, parce qu'après tout, c'est le groupe du milieu, entre les sociaux-démocrates et le Parti populaire européen.
Le fameux groupe auquel aspire, que va rejoindre Emmanuel Macron, les troupes d'Emmanuel Macron.
Voilà, à l'issue d'une OPA plus ou moins amicale, plus ou moins hostile, et puis peut-être aussi les Verts, parce que les Verts vont pouvoir faire l'appoint. Alors, avec simplement une remarque, compte tenu de ce qu'on vient de dire sur les Verts, c'est que ce sont des partis qui vont faire des scores importants dans nombre de pays de l'Union européenne, mais qui sont dramatiquement absents, complètement absents dans certains autres, et non des moindres, parce que quand vous regardez l'Espagne, l'Italie, la Pologne, ce sont des grands pays qui envoient beaucoup de députés européens à Strasbourg, eh bien, il n'y a quasiment pas de représentation verte dans ces pays-là, et donc, finalement, le score total des Verts au niveau du Parlement européen, comme à chaque élection, s'en trouve réduit. Ça sera une force d'appoint, mais ça n'est pas une force qui peut rivaliser avec les trois premières grandes forces pour ces raisons-là.
Après Berlin, nous allons en Grèce, à Athènes. Bonjour Charlotte Stepnard.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RFI en Grèce. Alors, il y a un petit côté Eurovision avec les élections européennes. Alors, Athènes, c'est 21 points, c'est-à-dire que Athènes envoie 21 eurodéputés. Alors, c'est un combat entre la nouvelle démocratie, c'est-à-dire les conservateurs, et puis les partisans d'Alexis Tsipras. Comment se présentent les premiers résultats? Donnent un avantage pour qui? Pour la nouvelle démocratie ou pour Syriza d'Alexis Tsipras?
Alors, pour l'instant, on a uniquement le résultat des sondages de sortie des urnes. Et effectivement, ils donnent une large avance aux partis d'opposition, les conservateurs de la Nouvelle Démocratie, qui sont crédités de 32 à 36% des voix, contre 25 à 29% pour le parti du Premier ministre grec, le parti de gauche Syriza, suivent ensuite les socialistes du final avec 7 à 9%, puis au coude à coude, le parti néo-nazi de l'Aube Dorée et le parti communiste avec entre 5 et 7% des votes. Alors, il s'agit de sondages.
Évidemment qu'il faudra confirmer. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est un succès pour la nouvelle démocratie qui siège avec les conservateurs, c'est-à-dire auprès du PPE? Est-ce que c'est une défaite pour Alexis Tsipras? Pas forcément, ça fait des années qu'il est au pouvoir et il a dû prendre des mesures très difficiles. S'il est autour de 22-23%, c'est peut-être pas si mal que ça pour quelqu'un qui a dû assumer le gouvernement dans des moments extrêmement difficiles pour le pays.
Alors pour l'instant, tous les commentateurs appellent à la prudence parce que les sondages en 2015 s'étaient révélés assez loin du résultat final, notamment lors du référendum. Mais le porte-parole du gouvernement, Dimitris Panakopoulos, a tout de même déclaré que Syriza ne semble pas avoir subi de défaite stratégique recherchée par la nouvelle démocratie, tandis qu'évidemment, avec tant de différences entre la nouvelle démocratie et Syriza, ça semble pourtant être une victoire pour les conservateurs.
Alors, on l'a compris, il va y avoir une très grande recomposition au sein du Parlement européen, au sein de tous les groupes. Jusqu'alors, les députés d'Alexis Tsipras, ils siégeaient dans un groupe qui s'appelle la GUE, la Gauche Unitaire Européenne. Et on a entendu dire que les députés d'Alexis Tsipras pourraient rejoindre les sociaux-démocrates. Qu'en est-il ?
Alors, sur cette question, on n'a pas encore d'informations plus précises. On en saura plus avec le discours d'Alexis Tsipras qui devrait avoir lieu dans la soirée après les résultats finaux.
Alors évidemment, un mot quand même sur Aube Dorée, qui n'est pas un parti d'extrême droite, qui est quasiment un parti néo-nazi. 5 à 6%, il est plutôt en chute libre ou pas, dites-nous.
Il reste avec son cœur électoral, qui avait voté pour lui également aux élections législatives de 2015. Depuis le début du procès de l'Aube Dorée, il y a 3 ans maintenant, le nombre de votants pour l'Aube Dorée tourne autour effectivement de 6%, alors qu'il avait été élu à 12%.
Alors, il y aura en tout cas des députés d'Aube Dorée dans le prochain Parlement européen, puisque je crois qu'en Grèce, le seuil, c'est 3% pour avoir des députés.
Tout à fait, le seuil c'est 3%, donc a priori, il y aurait des députés néo-nazis au Parlement européen à nouveau.
Merci Charles Sévenard, je rappelle que vous êtes la correspondante de RFI en Grèce et que vous étiez bien évidemment à Athènes. Alors, Eddie Vautrin du Maine, Emmanuel Macron peut-il gagner son double pari? Alors le premier pari c'est évidemment de passer devant le Rassemblement National de Marine Le Pen, mais ça il faudra attendre 20h pour y voir un petit peu plus clair. Et le deuxième ce serait d'avoir suffisamment de députés pour peser dans ce futur groupe des libéraux. Alors Renaissance, le groupe européen d'Emmanuel Macron a dit qu'il allait rejoindre l'ALDE. L'ALDE, ce sont les libéraux et démocrates. Alors, est-ce qu'il faut peser beaucoup pour exister au sein de ce groupe et pour exister dans un deuxième temps au Parlement européen?
Alors, ce qui est certain, c'est que la différence de score entre les résultats du RN et La République En Marche permettra d'installer le rapport de force, justement, pour la coalition de la ALDE. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour En Marche, et ça sera sans doute des éléments qui seront avancés ce soir, ça va se traduire par une arrivée quand même massive d'eurodéputés français, environ 20 eurodéputés qui viendront En Marche. Et en fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que de l'autre côté, on va avoir les groupes PPE et le groupe des sociaux-démocrates qui vont perdre environ 40 eurodéputés. Donc effectivement, La République En Marche et Emmanuel Macron va envoyer un certain nombre de députés. Et ce qu'il faudra qu'il fasse, et c'est sans doute l'un de ses objectifs, c'est d'arriver à négocier ce rapport de force pour arriver à prendre le lead, entre guillemets, sur ce groupe-là, mais qui ne sera pas forcément suffisant, ou en tout cas avec lequel qui devra être capable, pardon, de faire des alliances avec d'autres partenaires, des sociaux-démocrates peut-être, des Verts pourquoi pas. En tout cas, les choses sont extrêmement ouvertes et le rapport de force, pour l'instant, est encore inconnu pour cet exercice-là.
Hubert Fontini, le deuxième pari d'Emmanuel Macron, celui de peser, d'être l'élément central du groupe central, est-ce que ce pari, Emmanuel Macron peut le réussir?
Alors c'est un pari qu'il peut réussir symboliquement. S'il est en tête, c'est mieux que s'il est en régression par rapport au Front National. Mais ce qui restera vrai, c'est qu'il va envoyer au sein du groupe central la principale délégation nationale. Donc normalement, ça crée les bases pour avoir une influence importante. Ça dépend de la coalition qui sera conclue. C'est pour ça que les deux principaux partis, d'ailleurs, PPE et SED, parlent d'une coalition à 3 ou à 4, parce qu'ils ne veulent pas donner les clés, je dirais, aux libéraux-démocrates, ils peuvent tout à fait aussi élargir ouvert. Simplement, dernière remarque, ce qui sera aussi mesuré, et c'est aussi à cela que on jauge de la capacité d'influence d'Emmanuel Macron, c'est sa légitimité politique domestique. C'est-à-dire que il pourra avoir, bon, je sais pas, 23, 25, etc., mais ça restera quand même très très bas au regard de les deux forces politiques qui gouvernent l'Allemagne, parce que même si elles sont en régression, à elles deux, elles sont bien au-dessus de 40. Si on regarde les Italiens, M. Salvini et ses alliés des 5 étoiles, ils seront peut-être même au-dessus de 50. Et quand on regarde autour de nous, en fait, il y a très peu de pays où les forces politiques qui gouvernent sont si bas. Et donc ça aussi, ça pèse sur l'influence d'un pays, au-delà de la force de sa délégation au Parlement européen. Peut-être un dernier contrepoint plus positif, les rapports de force, il faudra les regarder au Parlement européen, mais aussi au Conseil européen, c'est-à-dire où se réunissent les chefs d'État et de gouvernement. Et sur ce registre-là, il y a aujourd'hui une quasi-égalité entre le PPE, qui sont à 9 chefs d'État et de gouvernement, et justement la famille centriste, libérale, à laquelle Emmanuel Macron va finir par s'affilier, parce que jusqu'à présent, il n'avait pas souhaité le faire. Je dirais que les élections européennes vont le pousser à le faire, et eux, ils sont 9 également. Et donc, bien sûr, dans les négociations qui s'annoncent au Parlement européen, et plus globalement, ça lui donnera un effet
ça, c'est
levier.
Le deuxième tour, voire le troisième tour de Absolument. L'élection européenne. Jens Althoff, évidemment, un Parlement européen tel qu'il est en train de se former, on voit bien que il est en train de bouger. Il peut être plus libéral, plus réformateur, plus écolo en fonction des résultats ce soir. C'est important parce que ça peut changer quand même les grandes directions et les grandes directives que prenne l'Europe.
C'est vrai. Bon, je crois qu'il y a deux choses ou deux leçons qu'on peut déjà tirer. Moi, ça, quand même, ça m'a toujours un peu étonné cette idée qu'avec une vingtaine des députés de la liste Renaissance de En Marche, que là, on pourrait changer tout le rapport de force dans le Parlement de 750 députés. Bon, d'accord quand même. Et l'idée, c'est que, c'est vrai, il y a les deux, les sociodémocrates, le groupe de sociodémocrates et les conservateurs qui vont être plutôt affaiblis. Normalement, on va voir, on n'a pas encore les résultats, mais tous quand même ont dans une telle direction. Puis les libéraux, un groupe des libéraux centristes avec environ peut-être 100 députés. Bon, est-ce qu'ils vont vraiment avoir 100 députés? Par exemple, déjà, les alliés de la liste des Renaissance de En Marche en Allemagne, le FDP, est autour de 5,5%, ce qui est très très faible déjà. Et déjà, en Allemagne, c'est quand même important. Est-ce qu'on a une dizaine ou est-ce qu'on a seulement 5 députés pour un tel groupe? Donc, est-ce que ça va vraiment marcher? Sinon, si il faut une majorité vraiment qui va des conservateurs, des sociodémocrates et libéraux jusqu'aux verts, ça, il me semble, et déjà, à partir de demain, ça va être vraiment intéressant et assez compliqué. Surtout parce que, il me semble, c'est quelque chose que on n'a pas vraiment d'habitude en France. En Allemagne, le système politique en Allemagne, on connaît que dans des situations comme ça, les forces doivent se mettre ensemble, doivent faire des négociations, doivent trouver des compromis pour avoir une majorité à la fin. C'est quelque chose qu'on connaît pas en France, qui va être aussi un peu compliqué. Par exemple, pour les Verts en France, ça va être pas facile d'expliquer des telles négociations où il y a tout le monde dedans. Mais il y a aussi une chose que je crois, et on peut déjà dire que c'est quand même intéressant, que Manfred Weber, le Spitzenkandidat conservateur, il sort déjà affaibli des élections. Parce que vu les résultats en Allemagne, les conservateurs ont perdu, et lui-même aussi, vraiment les résultats autour de 6% seulement pour les CSU, le parti des conservateurs de la Bavière, c'est vraiment faible. Donc lui, il n'a pas du tout ce qu'il y a au minimum une Franz Timmermans, qu'on peut dire, il y a un effet de Spitzenkandidat dans son pays. Pour Manfred Weber, il n'y a pas ça. Donc il n'est pas dans une très bonne position, vu que aussi Emmanuel Macron a dit que ni au Parlement, ni comme gouvernement dans le Conseil, il est prêt vraiment à soutenir ce Spitzenkandidat.
Carrefour de l'Europe, spéciale soirée électorale. Nous sommes avec Yves Bertoncini, président du Mouvement Européen France, avec Jens Althoff, directeur du bureau de Paris de la Fondation Henri Jebel, et avec Eddy Vautrin-Dumaine, directeur d'études de l'Institut du Cantar. Alors, il y a tout un groupe parlementaire qu'on n'a pas du tout évoqué. C'est le groupe qui se tient à la droite de la droite. Aujourd'hui, il est représenté par 3 groupes au Parlement européen. Évidemment, il faudrait se tourner vers l'Italie, mais c'est un peu tôt pour se tourner à l'Italie, puisque c'est évidemment Matteo Salvini qui serait le leader de cette force d'extrême droite. Est-ce qu'il y a quelques petites informations du côté de Kantar pour savoir un petit peu s'il y a effectivement une percée des groupes et des partis d'extrême droite en Europe?
Non, alors pour l'instant, on n'a pas encore de données, sachant que les résultats de l'Italie arriveront très très tard dans la soirée. Et effectivement, les résultats de l'Italie seront particulièrement intéressants parce qu'en fait, ce sont eux qui vont envoyer le plus gros bataillon entre guillemets d'eurodéputés dans les groupes eurosceptiques et europhobes. Donc, et de ces résultats-là aussi dépendra la capacité ou pas de l'extrême droite européenne à s'unir, parce qu'on sait que c'est l'un des gros problèmes, c'est que au-delà des bons résultats qu'elle obtiendra ou pas, cette extrême droite, ou en tout cas ces partis europhobes et eurosceptiques. La deuxième question, c'est est-ce qu'ils arriveront ou pas à s'unir, et on sait que les défis sont
pour l'instant, il y a trois groupes, entre les eurosceptiques et l'extrême droite, il y a vraiment des nuances. Jusqu'à l'heure, ils n'ont pas réussi à s'unir. Rien ne peut prédire qu'ils arriveront à le faire dans ce nouveau Parlement. Peut-être réduire, de passer de trois à deux groupes, peut-être.
En tout cas, c'est une hypothèse, et le rôle, encore une fois, de l'Italie sera absolument capital, parce qu'on l'a vu notamment au moment de la campagne, c'est Salvini qui a servi d'entremetteur entre Marine Le Pen notamment et ces groupes-là. Donc la question qui se posera pour ces groupes-là, c'est est-ce qu'ils accepteront ou pas de s'unir, et est-ce qu'ils accepteront ou pas de s'unir avec Marine Le Pen et avec les députés du Rassemblement National. Et encore une fois, ça dépendra du score du Rassemblement National, mais ça dépendra aussi après des négociations qui seront faites. Et là, pour le coup, on n'a absolument aucune information pour le moment, mais évidemment, ça sera un enjeu capital pour eux, mais aussi et surtout pour le Rassemblement National, parce que ça sera le seul moyen d'instaurer un rapport de force qui leur serait favorable.
Mais ce qui est important, déjà, on a quand même une première estimation pour l'Autriche. Et l'Autriche, là, ils sont beaucoup perdus, déjà. Parce que là, il y avait le grand scandale qui a aussi fini le gouvernement pour les FPE, l'extrême droite, qui était quand même aussi au gouvernement, qui était aussi une sorte de modèle, surtout pour l'extrême droite en Allemagne. Et eux, ils sont vraiment... Ça montre déjà les premières estimations. Qui sont vraiment affaiblis. Ils sont autour de 17% encore. Mais comment ils sont vraiment fortement affaiblis. Ce qui est quelque chose qui joue aussi. Et vu que aussi la montée en Allemagne... Ça, c'est quand même un peu fini. Je crois que ça va vraiment être intéressant. Est-ce que ce groupe va si fort et si plus fort que beaucoup ont pensé, va vraiment monter ou
il
pas?
Va falloir un peu de temps pour le savoir. Yves Bertoncini, vous vouliez intervenir.
Oui, de toute façon, c'est difficile de former une internationale des nationalistes. Vous dites qu'ils sont dans trois groupes. Il y a même les lobes dorés grecs qui est dans l'inscrit. Donc ça fait même quatre. Et puis... Pour ce qui est de M. Orban, il est même dans un cinquième groupe, c'est le Parti Populaire Européen. Alors, il n'est peut-être pas d'extrême droite, mais il est de droite extrême, on va dire. C'est vrai que ce qui se passe en France, c'est assez atypique, parce qu'au fond, où est-ce que va être la poussée nationaliste en Europe? Effectivement, pas en Autriche, pas en Allemagne, en Italie, oui, c'est clair. Là, il y en a une, surtout que la dernière fois, ils avaient fait un score très très faible, Lega, en France. Mais en même temps, est-ce que c'est une poussée en France? Non, parce que ça sera à peu près comme la dernière fois, si on en croit les enquêtes d'opinion. Je rappelle que la dernière fois, le Front National avait fait 24,5. Donc, il n'y a pas une dynamique très forte. Il y a une seule chose qui est en train de se passer, au-delà du cas italien, puisque ça donne un leadership à Matteo Salvini, c'est que des partis comme l'AFD, je crois Alternative für Deutschland, se rallient. Et donc, ils peuvent rallier autour d'eux davantage d'élus. Simplement, ça ne va pas dépasser les 10%, environ 10-12% du Parlement européen. On ne gouverne pas le Parlement européen à 12%. Et je termine simplement pour dire que le vrai péril nationaliste, il n'est pas au Parlement européen, il est au Conseil. Il est au Conseil des ministres parce qu'en effet, on le voit avec l'Italie, on le voit un peu avec M. Orban, on le voit aussi un peu avec les Polonais. Quand des nationalistes arrivent au Conseil, là, ils peuvent avoir une capacité de nuisance et de blocage, parce que le Conseil, à la différence du Parlement européen, prend des décisions à l'unanimité, lui. Alors qu'au Parlement européen, des nationalistes qui pèsent 10, 15, même 20% n'ont pas la capacité de changer la donne et de participer aux décisions, ni à les bloquer. Donc c'est pour ça qu'il faut relativiser. C'est une poussée nationaliste qu'il faut évidemment analyser, dont il faut comprendre les causes et les traiter. Mais ça n'a pas un impact institutionnel visible au Parlement européen.
Après Berlin, après Athènes, nous allons faire notre troisième escale à Bruxelles. Bonjour Pierre Benazet.
Bonsoir Daniel.
Vous êtes installé, j'espère, très confortablement dans l'hémicycle du Parlement européen qui siège à Strasbourg, à Bruxelles, mais vous êtes à Bruxelles. Ce qui veut dire, Pierre, que vous occupez en ce moment le fauteuil d'un eurodéputé sortant.
Oui, alors j'occupe le fauteuil numéro 495, mais j'ai pas réussi à me souvenir qui c'était. Mais effectivement, je suis au 8e rang et j'ai une vue magnifique sur une énorme salle de presse. On a transformé ce soir l'hémicycle du Parlement européen en salle de presse géante. Tous les médias de l'Union européenne, et d'ailleurs, sont bondés, bourrés ici autour de moi. C'est une ruche assez intéressante.
Alors, pour la petite histoire, vous êtes sur un siège PPE, SED, Vert, libéral.
Alors, je suis sur un siège PSE.
PSE, très bien. Alors, petit tour d'horizon avec vous. D'abord, sur ces élections en Belgique. Alors, la Belgique, c'est toujours un peu compliqué. Il y a la Flandre, il y a Wallonie et Bruxelles, capitale. Il semble qu'il y ait une petite poussée, ou une grande poussée, c'est vous qui allez nous le dire, de l'extrême droite, en tout cas en Flandre.
Oui, effectivement, les résultats sont très différents selon qu'on se place en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre. Et on a les résultats, on n'a pas les résultats pour le scrutin européen, ceux-là tomberont plus tard, mais on a déjà des résultats pour les scrutins régionaux, puisque aujourd'hui, les Belges votaient aussi pour leurs parlements régionaux et pour leur parlement fédéral. Et pour le parlement régional en Flandre, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, il y a une poussée assez forte de l'extrême droite, en l'occurrence le Vlaams Belang, qui s'appelait autrefois Vlaams Blok, qui a changé de nom depuis, puisque le parti a été interdit d'exercer en quelque sorte, et qui serait à 18% au parlement flamand. Et si on compte avec la NVA, l'Alliance néo-flamande, qui est aussi un parti régionaliste, mais qui n'est pas classé à l'extrême droite, ça fait que ces deux partis-là, ces partis identitaires régionalistes, arriveraient à quasiment 46 ou 47% au sein de ce parlement régional. Alors peut-être qu'il n'y aura pas d'impact direct sur la conduite d'institution, parce qu'il y a un cordon sanitaire qui existait, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pour exclure l'extrême droite du gouvernement, mais on verra ce que ça donne.
Alors ça, c'est pour la Flandre. Du côté des Wallons et du côté de Bruxelles, comment ça se présente ?
Alors c'est assez différent. On sent qu'il y a un essoufflement des partis du gouvernement, puisqu'il y avait un seul parti, le MR, les libéraux de Charles Michel, qui était dans le gouvernement fédéral sortant, et lui perd des plumes, surtout en Wallonie et un petit peu aussi à Bruxelles. C'est la rançon, selon les analystes ici, d'avoir participé, d'avoir conduit un gouvernement où il n'y avait que des partis flamands en dehors des libéraux francophones, et les électeurs le lui font payer. Et il y a une poussée écologiste, en revanche, elle n'existe pas en Flandre, mais elle existe bien en Wallonie et surtout à Bruxelles. Finalement, ceux qui s'en tirent peut-être le mieux, c'est les socialistes wallons.
Qui n'assistent pas à l'effondrement qu'ont connu, par exemple, les sociodémocrates allemands.
Non. Alors, en revanche, c'est uniquement pour la Wallonie, puisqu'ils ne sont pas aussi bien placés à Bruxelles. Et on voit très, très nettement en Flandre, en revanche, un écroulement du socialiste et ce parti, du parti socialiste, qui lui perd des plumes et pourrait même se retrouver en dessous du seuil, puisque comme en France, en Belgique, il y a un seuil de 5%. Ça fait partie, la Belgique, des pays, plus de la moitié des pays de l'Union Européenne, qui ont un seuil pour ces élections.
Alors, ça, c'est pour la Belgique, Pierre Benazet, mais il y a aussi l'Europe, et vous êtes au sein du Parlement Européen. Alors, on a compris qu'il y allait avoir un petit tremblement de terre sur les bancs du Parlement européen, puisque cette fameuse alliance entre les conservateurs et les sociaux-démocrates est fortement remise en cause par l'irruption des Verts, qui ont fait de très bons scores, au moins en Allemagne, mais semble-t-il aussi en Belgique et peut-être ailleurs. Et puis aussi l'irruption d'un parti libéral qui sera beaucoup plus fort aujourd'hui, c'est-à-dire demain, qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, comment envisage-t-on dans les couloirs du Parlement européen cette petite révolution, cette nouvelle majorité qu'il faudra donc coqueter à trois, voire quatre groupes parlementaires? On voit ça plutôt d'un bon œil, parce que c'est évidemment un changement, ça va faire bouger le Parlement européen.
Ouais, le côté recomposition n'est pas forcément quelque chose de négatif. En revanche, on craint surtout une fragmentation. Vous voyez, on craint très très nettement que le PPE, les conservateurs, et le PSE, SED, les socialistes, sont en perte de vitesse assez nette depuis l'époque glorieuse, en quelque sorte pour eux, en 1999, où ils avaient à eux deux rassemblé 60% de l'électorat, quasiment. Aujourd'hui, le danger pour eux est de ne même pas arriver à cette barre de 50%, qui leur permettrait, comme auparavant, de continuer à se partager la présidence du Parlement européen. Alors effectivement, les libéraux, ça c'est le grand espoir de Guy Verhofstadt, qui préside le groupe libéral au Parlement européen. C'est son grand espoir depuis 5 ans d'arriver à être le faiseur de roi, en quelque sorte, le parti sur lequel il faut compter. Il y a déjà eu Pat Cox, par exemple, il y a déjà eu des présidents du Parlement européen qui étaient des libéraux, et c'était le grand espoir de Guy Verhofstadt depuis longtemps d'arriver à avoir le rassemblement La République En Marche, au sein de son groupe, pour qu'il pèse de plus en plus. Après, pour le reste, je crois que Bercy l'a dit de manière assez claire tout à l'heure, c'est très difficile pour les partis eurosceptiques, europhobes, voire anti-européens, d'arriver à peser dans la décision au sein du Parlement européen. Et on sent d'ailleurs, malgré la poussée de 2014, qu'ils n'ont pas réussi à infléchir la voie, parce que ici, il faut constituer des majorités dossier par dossier. On ne vote pas par groupe, on ne vote pas par intérêt national, on vote vraiment sur les dossiers. Et ils ont fait finalement assez peu de rapports, et c'est ça vraiment qui compte dans le mode de fonctionnement du Parlement européen. européen.
Pierre Benazet, merci. On va faire un petit détour. Alors là, très près de chez nous, à Paris, au siège de La République En Marche. Julien Chavanne, bonjour.
Bonsoir.
Alors, ce double pari d'Emmanuel Macron, un peu tôt, je le disais, pour dire ce qui va se passer en France, à moins que vous dévoiliez certaines petites choses que vous savez déjà.
Je sors ma boule de cristal. Bon. C'est parti.
Mais sur le deuxième pari d'Emmanuel Macron, celui de peser sur ce groupe central, qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a quand même un peu de sourire aux lèvres chez La République En Marche, qu'on appelle Renaissance européenne, dans sa version élection européenne ?
Eh bien, quand vous posez la question à un membre de l'équipe de campagne, est-ce que le pari est réussi au niveau européen ? Il vous répond, bah oui, on passe de 2 eurodéputés à une vingtaine, hein, selon les derniers sondages. Donc voilà pour l'élément de langage. Mais évidemment, le score de ce soir va conditionner le poids politique d'Emmanuel Macron au niveau européen et évidemment pour la composition de ce groupe. Son élan, sa dynamique, sa marge de manœuvre seront impactées, hein, par s'il y a un échec face au Rassemblement National. En cas de deuxième place, hein, c'est évidemment un coup d'arrêt pour Emmanuel Macron, ce qui est paradoxal, hein, ce qui est un vrai échec personnel. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, c'est l'européen, le pro-européen. Il y a eu l'hymne à la joie lors de sa victoire au second tour de la présidentielle. Il y a eu ce discours de la Sorbonne. Il y a eu ses visites à travers l'Europe, une vingtaine de pays. Voilà, si ce soir il n'arrive pas à être en tête devant le Rassemblement National, double échec, échec politique et échec au niveau européen, puisqu'il n'aura pas réussi à être le rempart face à l'extrême droite.
Alors on peut suivre tout ça, ce qui se passe au QG de La République En Marche, sur votre live blog, Julien, on le retrouve comment ? Dites-nous tout. Votre live blog.
Vous parlez de live blog. Alors, ça ne doit pas être moi, Daniel.
Ah,
moi,
sur le live blog global de RFI.fr.
Voilà, je pense que ce sont nos collègues du site qui s'en occupent.
Bon, très bien. J'imagine que vous contribuez, voilà, vous
on
aussi.
On a une petite carte, vous savez, en 2019, mais on a encore nos limites.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Eddy Vautrin du Maine, résumé d'abord, une participation très très forte, inespérée.
Effectivement, donc une participation qui augmente dans beaucoup de pays européens et notamment en France, mais aussi en Allemagne, plus 10 points en Allemagne. En France, on aura plus d'un électeur sur deux qui se sera mobilisé. C'est plus que pour le premier tour des départementales, des régionales, mais aussi des législatives et dans d'autres pays comme l'Espagne notamment ou encore la Pologne. Donc effectivement, un scrutin européen qui aura mobilisé plus que prévu. Une extrême droite qui finalement, aux Pays-Bas en tout cas, n'aura pas explosé et pareil en Autriche. Et enseignement quand même très très important à avoir en tête, c'est la poussée des Verts en Allemagne et voir notamment si cette poussée-là qu'on observe à Bruxelles, est-ce qu'on l'observera ou pas en France, ça sera l'une des interrogations de ce scrutin.
Alors pour l'extrême droite, évidemment, il faut attendre un petit peu, il faut attendre notamment les résultats de l'Italie, parce que évidemment les résultats de la France aussi, puisque c'est là que tout va se jouer pour l'extrême droite, ou en tout cas en grande partie, ça va se jouer en France et en Italie.
Exactement, même si en France, dans tous les cas, la poussée a priori n'est pas anticipée, parce que le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, avait déjà effectué sa poussée lors du précédent scrutin en 2014.
Un mot sur les conservateurs, ils sont quand même en effritement, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai dans d'autres pays, par exemple la Belgique, on a évoqué avec Pierre Benazet tout à l'heure, un effritement, un tassement ou un effondrement ?
Alors au niveau européen, je pense qu'on peut parler d'effondrement, mais ça ne concerne pas uniquement le PPE, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde les projections siège sur la base des intentions de vote, le PPE et les sociaux-démocrates devraient perdre entre 35 et 40 eurodéputés, ce qui est énorme. D'autant plus que c'est eux qui co-dirigeaient ou qui co-lidaient le Parlement européen. Donc effectivement, aujourd'hui, on assiste à une baisse du PPE et enfin des partis conservateurs et des sociaux-démocrates. Et c'était notamment le cas en Allemagne.
Alors on n'a rien dit de la gauche radicale, peut-être d'un mot. Elle semble un peu inexistante dans ce scrutin européen. En tout cas, elle va rester à la 50 députés. Elle restera à peu près à 50 députés. C'est ce qui va se passer pour la gauche radicale en France, représentée par la France insoumise, notamment.
Effectivement, parce qu'aujourd'hui, hein, ce que l'on observe dans un certain nombre de pays, c'est que le vote contestataire, le vote radical, il est essentiellement porté par des forces conservatrices, souvent à droite de l'échiquier politique. Et effectivement, ce rôle ne semble plus être rempli par l'extrême gauche.
Merci à tous les trois d'avoir été au carrefour de l'Europe. Yves Bertrand de Chigny, président du mouvement européen France. Salsoff, directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll, et Eddy Vautrin du Maine, directeur d'études à l'Institut Kantar. Carrefour de l'Europe se termine, mais sur RFI, la radio de l'Europe et du Monde, la soirée électorale, élection européenne 2019 se poursuit avec Philippe Le Caplin. Bonjour Philippe.
Bonsoir Daniel.